André Corracione, également connu sous le nom de André Corracione, écrivain comparatiste, a quitté la Hongrie après la chute de la Révolution de 1956, 23 ans alors, mais s'est installé à Paris. Son œuvre de fiction, exclusivement écrite en hongrois, n'est pas particulièrement épaisse, mais elle est fort originale dans le contexte de la littérature hongroise en exil d'après-guerre. Corracione a publié en 2007 une autobiographie en deux volumes sous le titre Autronoc, un titre qui est difficile à traduire en français, peut-être chez soi publié ou quelque chose comme ça, qui unifie deux sous-genres de l'écriture autobiographique. D'une part, elle est un mémoire en ce sens que l'histoire joue un rôle important dans la formation morale, intellectuelle, politique et sentimentale de son narrateur, protagoniste, auteur. Mais il faut tout de suite ajouter que ce sont plutôt des conséquences des éléments historiques que le récit autobiographique met en avant et analyse dans leur dimension personnelle, et non pas les éléments humains. Certes, quelques-uns d'entre eux sont représentés d'une façon mémorable, comme celui du siège de Budapest, ou plus encore les jours de la révolution à Budapest en 1956. La plus importante conséquence de cette rencontre personnelle avec l'histoire du XXe siècle, c'est certainement l'émigration. Et l'autobiographie de Corracione représente, analyse et explique abondamment les difficultés issues de la rencontre avec une autre culture, langue et société. Problématique qui est dans le cœur de la littérature comparée, domaine de recherche spécifique de Corracione dans sa carrière académique. Mais Autronoc entre également dans la catégorie de l'autobiographie classique, dans la mesure où le récit met en scène, d'un point de vue rétrospectif, la vie individuelle intime d'un personnage réel, je paraphrase la célèbre définition de Philippe Lejeune, et porte en particulier sur l'histoire de son mariage, ainsi que sur sa relation à ses parents. Si l'on regarde de plus proche la tradition de l'écriture autobiographique dans la littérature hongroise, on peut constater que ce variant hybride entre autobiographie et mémoire est beaucoup plus répandu et régulier que les œuvres génériquement pures, comme si une œuvre autobiographique ne méritait pas l'attention du public hongroise sans y être inclure des dimensions collectives, des descriptions détaillées du milieu et du temps de l'autobiographie. En effet, l'autobiographie de Corracione radicalise ces deux composants, car son attitude puise du deuil après la disparition de son épouse, dans telle mesure que le livre devient un mémorial de sa femme muette, ne pouvant plus elle-même écrire son portrait et l'histoire de sa vie. Mais en même temps, il radicalise le composant mémorialiste aussi, puisqu'il utilise d'une façon assez éclectique un large éventail de discours hétérogènes, anecdotes, portraits sarcastiques, stéréotypes nationaux et sexuels, pour peindre une image de la société hongroise et française, ou plutôt décrire certains milieux socioculturels, des milieux académiques et bourgeois dans les deux pays. L'expression « bol doublage » en hongroise résume bien cette fusion des dimensions collectives et individuelles dans l'entreprise autobiographique de Corracione. Ce mot évoque à la fois la quête du bonheur dans son sens global, émotionnel, moral, physique et même spirituel, et la capacité de se débrouiller dans la société ou de se résoudre un problème avec des moyens quelconques, inappropriés par une façon improvisée. Le récit de vie de Corracione relève le défi de la question existentialiste de quoi faire avec la vie, avec le temps personnel, dans un temps historique collectif dominé par le chaos des idées, dans une situation déterminée par un sentiment de double étrangeté où l'auteur de l'autobiographie ne peut pas s'appuyer sur une appartenance facile à une communauté. J'ai considéré la situation en exil comme une école de vie. Résume dire Corracione est effectivement son autobiographie est l'histoire de l'apprentissage. Projeté de l'univers de l'enfance, celui de la famille, même avec des relations fort compliquées, et celui de sa langue maternelle, Il doit retrouver ses points de repère tout seul, dans un monde étrange, par une méthode heuristique fondée sur l'expérimentation et sur l'erreur. Dans cette perspective, s'adapter aux nouveaux codes et valeurs socioculturels français, comprendre la logique de penser et agir à la française sont aussi de fond de l'apprentissage. Mais selon le livre de Corinne Choi, cet apprentissage peut être motivé et guidé par des raisons pratiques. En effet, il ne s'agissait pas d'une assimilation au sens courant du terme. Comme une structure hiérarchique détermine des rapports de l'immigré à la société majoritaire recevant. Au long de son récit, notre narrateur de garde se refuse à céder à la suprématie présumée de la culture et de la langue française. Il garde une conscience silencieuse, mais ferme des valeurs de la culture et littérature hongroise, complétée par une fierté sur son statut social dans son pays d'origine. De plus, surtout dans les premiers temps après son arrivée en France, l'idée de l'assimilation semble être plutôt un coup stratégique pour une action politique avec l'objectif de pouvoir lutter contre le régime hongrois par les moyens offerts par les démocraties occidentales. La lutte reste d'ailleurs une modèle importante pour le protagoniste de votre nom, tout au long de son histoire. Le jeune homme qui arrive à Paris doit manifester ses capacités, son intelligence et ses aptitudes lors d'une série des épreuves et de défis dans un milieu qui le regarde avec indifférence et parfois même avec l'hostilité. Je pense notamment à l'affaire avec Louis Althusser, professeur de économie supérieure alors, qui le convoque dans son bureau pour avoir des informations directes de la contre-révolution en Hongrie, et qui le nomme fasciste en écoutant le récit passionné du jeune révolutionnaire patriotique. Les anecdotes des intrigues dans le milieu académique racontées dans les deuxièmes tomes de l'ouvrage reposent sur cette même idée. Et le monde social ainsi représenté est pénétré par les rapports de pouvoir. Mais la vertu la plus importante dans ce struggle for life n'est pas la force, mais plutôt la malice et la ruse. Il n'est pas par hasard si le narrateur saisit le programme ambitieux de Jean Corrachon dans une scène à la fois ironique et sérieuse. Il s'agit d'un passage dans lequel le jeune hongrois visite Montmartre et songe au mot de Rastignac, à nous deux maintenant, qui lance le défi d'une manière théâtrale à Paris personnifié. Même si la scène, écrite avec une grande distance temporelle et intellectuelle, représente d'une façon ironique et réflective la geste de l'aspiration pour l'ascension sociale, pour le désir de réussite, le protagoniste, mais la narrateur aussi, ne peut pas s'empêcher de s'identifier à son confrère fictif d'un siècle d'avant. L'assimilation fait partie donc à une reconstruction identitaire bien réfléchie, selon le récit de vie présenté. Cette construction identitaire, bien qu'elle soit guidée par une conception utilitariste de l'action sociale, ne s'épuise pas par la dénomination péjorative de parvenu. L'ascension sociale ne représente pas un but en soi-même. L'identité culturelle hongroise et le statut social de sa famille en Hongrie assurent au narrateur protagoniste une position de outsider qui regarde la société française et même sa propre vie sociale en France d'un point de vue extérieur. Mais avec un mouvement dialectique, cette assimilation contrôlée et restreinte, cette nouvelle identité culturelle française acquise, ne laisse pas intacte la construction d'identité apportée. Elle lui permet en même temps de s'éloigner de ses origines hongroises, en premier lieu du lourd héritage psychologique de son milieu familial. La familiarité redoublée devient donc à la fois une étrangeté redoublée. Et précisément, c'est cette deux fois double position d'être à la fois dedans et dehors qui lui assure une distanciation critique par rapport à la fausse familiarité non réfléchie de l'indigène. Chez Corachon, cette position critique, et je dirais éminemment comparatiste, offre une perspective pour réviser et même rejeter les déterminations issues des positions sociales et culturelles, en particulier des modèles familiaux et professionnels. C'est ainsi que la forme d'existence de l'immigré est réinvestie et mise en valeur par l'écriture autobiographique. Et la double conscience d'étrangeté et de dépaysement devient un moyen original et authentique de la conscience du monde social. Dans l'autobiographie de Corachon, la mise en scène de l'éducation interculturelle avec son positionnement par des malentendus a un lieu d'exposition privilégié. Il s'agit de la vie en couple. Comme je l'ai déjà remarqué au début de ma communication, Corachon trouve la raison d'être de son ouvrage autobiographique dans le deuil. C'est la perte de son épouse Nicole qui le pousse à écrire l'histoire de leur relation, de leurs amours. Or, cette relation complexe et compliquée, dont je n'évoque que des aspects comparatistes, est le lieu de rencontre des cultures, car il est question d'un couple franco-hongrois. L'histoire de leur connaissance est racontée dans un chapitre qui porte le titre peu romantique de Rudun, annexe au sentiment d'étrangeté. Et effectivement, ces souvenirs évoqués du début de leur amour semblent peu romantiques, car le narrateur explique, par le même logique utilitariste, son projet d'avoir une petite amie française comme la meilleure introduction aux profondeurs de la culture française. Toutefois, ce désir de l'assimilation se montre ici par cette dimension intime, qui n'ont rien à voir avec l'acquisition des règles du comportement social efficace. Une lecture plus attentive peut révéler que l'intimité et la complicité des relations familiales et amicaux perdues avec le départ de la Hongrie, l'identité réduite à un rôle social dans ce nouveau milieu politique de l'Europe de l'Est, et la perte de l'existence ludique dans la langue maternelle s'ajoute aussi à la motivation des projets de conquête amoureuse du jeune hongrois. La construction, ou plutôt le remplacement de l'ambiance intime de la langue maternelle joue un rôle primordial dans la relation de Corachon et son épouse. Toutes les couples ont le langage privé, composé d'un vocabulaire intime et érotique, des surnoms ludiques, des cajoleries, des néologismes onomatopées, des comparaisons aux animaux, etc., et d'un grand-mère doux et tendre, fragmentation juridique, qui transgresse les règles d'un usage de langue normative. L'autobiographie de Corachon évoque ce langue commun à deux déjà dans ses toutes premières pages, lors de la description de l'agonie de Nicole. Il le nomme le langage commun en tant que la langue des oiseaux, qui trouve son origine dans l'être oiseauesque de Nicole. Et une autre fois, il parle des rituels de salutation à la manière des escargots. L'invention et la pratique de ce langage privé gardent un lien fort entre les amoureux tout au long de l'histoire, même pendant des moments de l'éloignement émotionnel. Et même ce langage commun joue aussi un rôle essentiel dans le processus de s'établir dans la société et dans la culture française, d'aider le narrateur protagoniste à sortir de l'enclave linguistique. Néanmoins, les différences socioculturelles peuvent provoquer des malentendus dans l'usage même du langage privé des amoureux. Corachon évoque notamment des scènes dans lesquelles son excès de surnommer son amant va jusqu'à inventer des cajoleries, des faiblesses de l'ami, qui provoquent des crises chez cette dernière. L'auteur en tire la conclusion que la cause de malentendu réside dans le statut différent de la langue dans les deux cultures et sociétés. Selon Corachon, les Français, je cite, pour les Français, la langue n'est pas seulement d'auxiliaire essentiel de la vie, mais elle est la vie elle-même. Et plus tard, il ajoute, Il n'était pas conscient qu'avec ces dénominations, il constitue une réalité. Et quand il nomme l'autre, il pratique, voire il abuse un pouvoir sur celle-ci. La pratique commune du langage dans la vie quotidienne resterait donc une solution imparfaite pour supprimer le sentiment d'étrangeté si elle n'était pas transmise au domaine de l'art et de la littérature. Le dernier étape dans le dialogue interculturel du couple, quand Nicole apprend le hongrois pour pouvoir produire des récits littéraires de son mari en français. Le fait même d'apprendre la langue maternelle de son compagnon est une confession d'amour qui ouvre une nouvelle dimension dans leur relation et en même temps, le geste devient la preuve ultime de l'admission de l'égalité culturelle. Le récit de cet épisode de travail commun est placé à la fin du deuxième tome, tout proche donc à la clôture de l'ouvrage, et il renvoie au début de l'autobiographie à la mort de Nicole. L'histoire de la traduction devient même une mise en abyme des malentendus interculturels et de leur dépassement. La position de l'épisode est directe, car le mari narrateur raconte d'abord l'échec des premières tentatives du travail commun. Les premières versions, qui, avec la contribution de l'auteur mari, restent trop proches au texte hongrois, ont échoué à rendre la richesse des textes originaux et les connotations socio-historiques de la langue hongroise. Korácsony raconte donc que cet échec pousse Nicole à travailler seule, sans l'intervention de lui, pousse à plonger dans la profondeur socio-historique inconnue ou oubliée de sa langue maternelle française. Grâce aux recherches philologiques et la créativité, et grâce à la créativité linguistique de Nicole, le texte traduit en français devient un miroir pour son mari auteur qui peut reconnaître un composant de son identité linguistique en français. L'œuvre commune du couple, la traduction française des textes littéraires de Korácsony, devient ainsi une unité partagée. Comme l'autobiographe dit lui-même, leurs enfants jamais nés, qui devient tout de suite indépendant d'eux, qui peut s'adresser aux lecteurs français. Merci de votre attention. Thank you.